Dans une lettre de 1921 adressée à Jean-Louis Vaudoyer, Proust revient sur l'idée lancée par l'écrivain Georges de Traz d'établir un dictionnaire des personnages de la recherche, inspiré de l'inventaire des caractères balzaciens. Idée à laquelle Proust réagit avec un mélange d'embarras et de fierté. Je le cite, « Je rougis devant cette comparaison écrasante pour moi. Je crois qu'il ne faudrait pas le faire tout à fait sur le modèle de celui des œuvres de Balzac, un peu moins littéral et en laissant une certaine place à l'histoire des impressions. » Proust n'a jamais caché son admiration ni sa dette à l'égard de l'œuvre balzacienne qu'il connaît sur le bout du doigt. Dans « Les brouillons du contre Sainte-Beuve », l'écrivain n'hésite pas à qualifier d'idée de génie la décision de Balzac de solidariser des romans jusque-là isolés dans un seul grand ensemble, le cycle de la comédie humaine, cimenté par la technique du retour des personnages. Selon lui, le surcroît de profondeur que, je cite Proust, « les diverses parties ternes jusque-là de la création balzacienne acquièrent à partir du moment où le rayon d'une intuition fédératrice vient se poser sur elle, résulte, dit Proust, de cette admirable invention de Balzac d'avoir gardé les mêmes personnages dans tous ses romans et d'avoir ainsi apposé après coup à son œuvre, je cite encore, un coup de pinceau, le dernier et le plus sublime. Proust, lecteur et critique de Balzac, voit donc à la forme cyclique, soutenue par les réapparitions des héros, la manifestation de ce que Christophe Prado appelait une beauté ajoutée, dans la mesure où le cycle agit en tant que principe d'agrégation d'une réalité et d'une œuvre en soi fragmentaire, mais dont la continuité sous-jacente se révèle a posteriori, y compris à son créateur. Avec de telles prémices, rien de tenant à ce qu'au moment de poser les fondations de sa propre cathédrale, Proust se souvienne de la lésion balzacienne et choisisse d'articuler son roman autour d'une structure cyclique, s'appuyant pareillement sur la technique du personnage réapparaissant. Cependant, Proust ne se borne pas à la reprise d'un mécanisme bien rodé, mais réalise une véritable réappropriation fonctionnelle à sa vision esthétique, et, lâchons le mot, métaphysique. Sans entrer dans le détail, on peut dire que chez Balzac, le retour des personnages sert la grande fresque sociale de 1830, peinte par l'historien de mœurs, qui se vertue à capturer le mouvement d'un présent qui marche. Et ça, c'est une formule de Balzac, que Balzac écrit dans la préface à Une fille d'Ève. Les surgissements périodiques des héros œuvrent aussi bien comme un opérateur de liaison et de lisibilité entre des romans potentiellement autonomes que comme un facteur d'expansion du système dont ils font partie. Chez Proust, ce dispositif répond à des exigences tout autres et s'inscrit avant tout dans un projet littéraire différent. Bien que la critique utilise souvent l'appellatif de cycle ou de roman cyclique à propos de la recherche, ces étiquettes devraient, me semble-t-il, être maniées avec prudence. Les différents tomes qui composent le roman proustien ne sont pas, de toute évidence, des œuvres isolées. Comme l'a dit Christophe Prado à propos des cycles, les chapitres d'un vaste roman qui conservent une forme d'autonomie, mais bien plutôt les tranches, coupées pour des raisons éditoriales, d'un seul et même roman, ou comme le dit Proust lui-même, d'un ouvrage de longue haleine. Et donc, en reprenant la définition proposée par Christophe Prado, il nous paraît plus juste de considérer la recherche comme un cycle à entrée unique, alors que la comédie humaine ou les Rougon-Macquart, ce sont des cycles à entrées multiples, où, au fil de cette section qui la compose, se déroule l'histoire d'une vocation et la parabole d'une existence, donc le cheminement accidenté du héros vers l'art. Cette brève mise au point sur la notion de cycle m'autorise donc à avancer que l'enjeu du retour des personnages chez Proust n'est pas le même que chez Balzac. Sa visée est moins d'assurer la cohérence intrasystémique de l'œuvre-monde, ou, comme l'avait déjà vu Bernard de Fallois, d'unifier la description sociale, que de soutenir l'immense fable sur le temps qu'est la recherche, selon Poricoeur. Plus exactement, ce dispositif permet à Proust de thématiser, par des moyens propres au roman, le principe esthétique et narratif séminal qu'il qualifie de psychologie dans le temps. À savoir, et donc là je vous ai mis l'une des nombreuses définitions que Proust donne de ce principe, les positions diverses que prennent par rapport à un autre un certain nombre de personnes au cours de la vie. Ces positions diverses qu'un même individu occupe dans la trajectoire existentielle du héros narrateur constituent plus essentiellement les reflets fictionnels de deux thèmes cruciaux chez Proust. Le travail souterrain et invisible du temps, orchestrant à notre insu les lignes et les transversales qui s'entrecroisent dans le tracé d'une vie, et surtout le morcellement d'un moi qui, nous dit Proust, est fait de la superposition de nos états successifs, soumis à la loi de fragmentation et d'intermittence. En tant qu'incarnation d'un sujet fractionné, multiple, soumis à l'action destructrice du temps, le personnage fait l'objet chez Proust d'un traitement inédit, où s'amorcent les prémices d'une déconstruction qu'achèveront, quelques 50 ans plus tard, les nouveaux romanciers. Au portrait déterministe et monolithique campé par Balzac, dont vous voyez à l'écran un exemple emblématique, donc c'est la première apparition de Madame de Bargeton dans Illusion perdue, qui témoigne de ce que Stefano Calabrese a appelé une obsession de complétude, Proust oppose une représentation dominée par l'éclatement et la sérialisation. Mise en œuvre exemplaire de la formule énoncée par Balzac dans la préface à Une fille d'Ève, « Il n'y a rien qui soit d'un seul bloc dans le monde, tout y est mosaïque », à sa première apparition, le personnage proustien s'offre, au regard du narrateur, comme un agrégat de fragments saillants, qui frappe le sujet percevant et qui, pour ainsi dire, l'aveugle, accapare tant et si bien son attention que tous les autres aspects de l'individu qui est en face de lui finissent par être expurgés de son champ visuel. Alors j'ai choisi trois exemples. De la petite Gilberte Swann, par exemple, entreperçue dans le parc de Tansonville, le héros ne retient que le blond roux de ses cheveux et une paire d'yeux noirs qu'il voit pourtant d'un vif azur puisqu'elle était blonde. La prostituée Rachel, future maîtresse de Saint-Loup, se réduit à un mince et étroit visage entouré de cheveux noirs et frisés. Pour ne pas parler de la petite bande des jeunes filles à Balbec, tache singulière, d'où affleure au gré des changements des perspectives, un ovale blanc, des yeux noirs, des yeux verts, un nez droit ou des joues couleur de géranium. Donc, à la place d'un tableau achevé et parlant, voit donc se profiler une toile cubiste. Au lieu d'un individu connu d'un trait de jeu, dont le caractère et les agissements futurs se lisent déjà en creux de son portrait, dans son portrait, Proust n'esquisse d'abord que des silhouettes opaques, éphémères, et comme telles, inévitablement soumises à rectification. S'il est vrai que, comme Proust l'a écrit à René Blum, les personnages sont préparés dans les premiers volumes, leur entrée en scène se voit dépouillée de toute valeur heuristique et ne laisse aucune place aux hypothèses ou aux déductions des lecteurs. Étant donné que, écrit encore Proust, ces héros feront dans un second volume exactement le contraire de ce qu'on s'attendait après le premier. Fin de citation. Or, du moment que la première apparition se caractérise par sa nature lacunaire et potentiellement déroutante, le retour des personnages se configure aussi comme une tentative, au demeurant en vaine, de progresser dans la connaissance d'autrui, d'épuiser son mystère à travers l'assemblage et la mise en série de plusieurs prises de vue, reflétant, comme elle affirme Proust dans la lettre que j'ai citée au début, l'histoire des impressions ressenties par le héros-narrateur à chaque nouveau contact avec ces êtres insaisissables. Le portrait proustien se construit ainsi de façon progressive et rétroactive, en additionnant et en juxtaposant les différents clichés obtenus lors de rencontres espacées par un intervalle de temps plus ou moins long, pendant lequel le personnage ne cesse d'évoluer, mais en coulisses, soustrait aux yeux du héros et des lecteurs. Engloutis par des blancs qui matérialisent l'intermittence des relations et des fréquentations, des personnages centraux comme Charlus, Odette, Swann ou Saint-Loup quittent pendant des centaines de pages le devant de la scène, plongent dans une zone d'ombre d'où ils émergent à chaque fois renouvelés. Les mêmes et pourtant autres, comme reviennent les choses dans la vie. Les héros proustiens échappent ainsi au figement déterministe et font l'objet d'un renouvellement aussi perpétuel que frustrant, car la somme des parties ne se solde jamais par un total satisfaisant. Loin d'apporter la retouche définitive, chaque nouvelle image suscite d'autres interrogations, met à jour des contradictions, des aspects inattendus qui corrigent, voire détruisent les autres instantanés, et remettent à plat les connaissances acquises auparavant. Le narrateur constate ainsi que chaque être est détruit quand nous cessons de le voir. Puis, son apparition suivante est une création nouvelle, différente de celle qu'il a immédiatement précédée, sinon de toutes. Alors, sans trop anticiper sur la suite, je me limiterai à suggérer dès maintenant que le retour des personnages chez Proust et la sérénité inhérente à leur représentation débouche finalement sur un paradoxe. Car si d'une part la multiplication des facettes et la complexité d'un portrait riche en clairs obscurs contribuent à faire des héros proustiens des caractères complets, non résolus, vivants, d'autre part elle atteste aussi l'impossibilité, tant pour le héros narrateur que pour les lecteurs, d'arrêter ce bouger perpétuel des individus et d'avoir accès à une vérité définitive sur eux. L'accumulation n'implique pas l'élimination des lacunes. Bien au contraire, plus le narrateur en sait sur le personnage, moins il le connaît, et plus celui-ci se dérobe à sa libido si on dit. Une personne n'est pas, comme j'avais cru, claire et immobile devant nous, avec ses qualités, ses défauts, ses projets, ses intentions à notre égard, constate amèrement le narrateur. Aussi, la représentation sérielle des personnages supporte-t-elle la conception proustienne de l'individu comme altérité absolue, comme être de fuite, conscience inconnaissable et diffractée? Là, je reprends une formule de Valérie Dupuis, qui a étudié la représentation chronotopographique du personnage. Donc, une conscience doublement soumise au temps et à la subjectivité du regard qui l'a saisie. Donc, dans cette première partie de ma communication, j'ai essayé de mettre en lumière quelques aspects théoriques et esthétiques propres à la logique de sérialisation qui précède à la représentation des personnages de la recherche. Et par ailleurs, il me semble que Mutatis Mutandis et ce rapprochement va peut-être m'attirer les foudres des proustiens orthodoxes qui ne sont pas dans la salle de toute façon, donc voilà, je le fais. C'est bien le lien entre la sérialité et la temporalité narrative, c'est-à-dire la sérialité comme manifestation, comme l'a bien dit Raphaël Baroni, du temps sous sa forme plus naturelle et même quasi existentielle, qui caractérise les mécanismes représentationnels à l'œuvre tant dans le roman proustien que dans les séries télévisées contemporaines, où les personnages affichent une dimension évolutive, qui les pourvoit d'une plus grande complexité et d'une plus grande profondeur. Et donc, je renvoie justement aux travaux d'Anaïs Goodman et de Raphaël Baroni et d'Eskenazi aussi sur ce sujet. Or, mon propos n'est pas de faire de Proust un précurseur de séries télé, ça serait un peu trop, mais de suggérer tout au plus que la sérialité propre aux personnages réapparaissant proustiens se constitue d'une façon et par des moyens qui ne sont pas totalement étrangers à l'univers des produits télévisuels dont il est question dans ce colloque. Mais bon, je ne vais pas pousser la confrontation plus avant et je vais me concentrer plutôt sur les dispositifs textuels qui président chez Proust à l'orchestration du retour des personnages. Et par-delà les stratégies narratives que Proust met en œuvre de façon délibérée, dont nous allons voir un exemple, il convient de rappeler au passage que l'effet de discontinuité propre à la représentation des personnages se trouve aussi renforcé par la publication échelonnée des volumes et par les vicissitudes éditoriales liées tant au déclenchement de la Première Guerre mondiale qu'à la dilatation du canevas originaire du roman. Les 7 volumes de la recherche ont paru, comme on sait, entre 1913 et 1927, avec notamment un intervalle de 6 années entre la parution du premier volume, du côté de chez Swann, et celle du deuxième, À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Ainsi, par un curieux effet de miroir, le temps diégétique qui s'écoule entre les apparitions et les disparitions successives des personnages trouve une correspondance dans l'univers du lecteur, au moins du lecteur des années 1920, mais aussi dans le temps contemporain si on ne lit pas la recherche d'une traite, ce qui est fort possible. Ce décalage se voit incorporé par le laps de temps assez long sur lequel s'étire l'apparition de la recherche. C'est pourquoi on peut affirmer que le retour des personnages s'appuie sur un véritable processus narratif et cognitif de reconnaissance à l'œuvre aussi bien dans le texte fictionnel, le héros narrateur découvrant tour à tour sous des nouvelles apparences les mêmes individus, qu'hors texte, le lecteur reconnaissant de son côté des caractères familiers et pourtant nouveaux. Le terme de reconnaissance traduit en français le concept aristotélicien d'anagnorisis, soit le dispositif dramatique en vertu duquel les personnages se reconnaissent mutuellement et qui amène le dénouement de la tragédie. L'anagnorisis est défini par Aristote comme le changement qui mène de l'ignorance à la connaissance. Contrairement à la valeur itérative exprimée par le préfixe « re », cette définition nous dit que la reconnaissance ne se traduit jamais avec la simple répétition d'une expérience ou d'une connaissance déjà acquise auparavant. Le passage de l'ignorance à la connaissance implique toujours l'accès à un savoir nouveau ou ignoré, qui, en général, touche à la révélation de l'identité. De ce fait, la reconnaissance est à la fois source de plaisir, l'émerveillement intellectuel se mêlant à la surprise, et de trouble, car toute découverte nouvelle entraîne inévitablement une reconfiguration des connaissances qu'on a sur le monde et oblige à une révision plus ou moins traumatique de l'architecture conceptuelle acquise. Les enjeux profonds de la reconnaissance vont donc bien au-delà de sa valeur de stratagème au service du pathos. Ils soulèvent au contraire des questions d'ordre épistémologique et cognitif, telles que le rapport à la vérité et le processus de réorganisation du savoir et de certitudes souvent trompeuses. Questions qui sont d'ailleurs au cœur du parcours de formation du héros de la recherche et qui caractérisent également sa relation au personnage qu'il côtoie. Les travaux des critiques proustiens tels que Jean-Yves Tadié, de Roland Barthes aussi, d'Antoine Compagnon et plus récemment de Nathalie Mauriac d'ailleurs, ont mis en lumière que la composante plus proprement romanesque de la recherche repose en grande partie sur le ressort de la reconnaissance. Le procédé est convoqué avec régularité au fil de 7 volumes et connaît plusieurs déclinaisons, allant de l'identification d'un personnage jusque-là inconnu ou méconnu, aux reconnaissances réitérées d'un même personnage au fil de ses apparitions successives, et c'est bien ce volet-là qui va m'intéresser, et, ou encore à une reconnaissance de type social et mondain. Donc, dans cet univers romanesque en perpétuel devenir, est chargé, comme nous l'avons vu, de représenter ce que Proust appelle la substance invisible du temps, ainsi que les intermittences du moi, les reconnaissances s'avèrent alors une ressource formelle importante pour peindre des existences qui évoluent et changent au fil des jours et des années, ainsi que pour rendre compte de l'ajustement constant des repères demandés au héros qui se frayent à ces silhouettes fuyantes, ainsi qu'au narrateur qui les décrit. La figure d'Odette de Crécy et ses nombreux avatars nous offrent alors un poste d'observation idéal pour illustrer comment le dispositif de la reconnaissance participe à la mise en œuvre du régime sériel qui constitue le personnage proustien. Les apparitions successives d'Odette sont agencées selon une structure binaire qui rappelle le fonctionnement des poupées gigognes, j'y vais revenir, et qui pourrait aussi être expliquée à l'aide du principe linguistique de la synonymie. À des signifiants différents et séparés, c'est-à-dire aux aspects extérieurs et aux noms qu'assume la maîtresse puis femme de Swann dans le temps couvert par la fiction, doit être associé un signifié, soit un être et une personnalité sociale, qui, tout en renvoyant à la même personne, n'est pourtant jamais le même, la stricte synonymie n'existant ni en linguistique, ni en fortiori dans l'univers proustien. De ce fait, les reconnaissances par lesquelles Proust construit narrativement le caractère séquentiel du personnage comportent toujours un acte de comparaison, ayant pour point d'aboutissement la mise en présence de deux ou de plusieurs images hétérogènes, voire contradictoires, susceptibles d'exhiber l'étendue du possible, pour reprendre une formule d'Alain Delattre, qui fait toute l'épaisseur du personnage proustien. Si l'on suit l'ordre du récit, la première apparition de celle que nous apprendrons plus tard être la demi-mondaine, Odette de Crécy, coïncide avec la rencontre du héros avec une énigmatique et luxuriante dame en rose, aperçue chez son oncle, Adolphe. En relisant ces quelques pages du côté de chez Swann, force est de constater que le texte demeure assez vague et ne fournit aucun indice permettant de pressentir le rôle que ce personnage jouera dans le roman. Au cours de cette brève entrevue, le héros n'apprend pas le nom de la jeune femme et ne retient aucun trait particulier de son aspect, à l'exception de sa magnifique robe en soie rose, qui inspire l'appellation très romanesque faisant de Renovant pour lui office de nom propre. Dès lors, rien ne nous permet d'identifier en cette silhouette évanescente l'élément inaugural d'une série, la première occurrence d'un personnage important, qu'on va retrouver par la suite. L'existence d'un personnage récurrent dans l'esprit du lecteur, note Daniel Aranda, commence donc par une période de latence, qui prend fin avec l'intervention d'une deuxième occurrence. Une période de latence qui, dans notre cas, s'étend sur un long intervalle de temps et de pages, et s'étire jusqu'aux côtés de Guermantes, troisième volume de la recherche. Lors de la matinée chez Madame de Villeparisis, le narrateur relate après coup la visite qu'il a reçue quelques jours auparavant de la part de Morel, un autre personnage secondaire au début et puis de plus en plus important, qui est le fils de l'ancien valet de chambre de l'oncle Adolphe. L'importance de cette analepse complétive pourrait ne pas se déclarer d'emblée si Proust ne veillait à tisser des liens très tenus, qui entraînent pourtant la formation d'une chaîne d'associations chez les lecteurs attentifs. Le narrateur rappelle en effet que l'oncle Adolphe est celui chez lequel il avait vu la dame en rose, et laisse entendre de surcroît que le souvenir de la visite de Morel revient à sa mémoire au moment où Madame Swann fait son entrée dans le salon. La combinaison de ces deux détails ouvre ainsi discrètement la voie à une reconnaissance que l'on commence à pressentir et qui pourtant se voit retardée par un effet de suspense typiquement proustien. Le récit allusif d'autres événements vient en effet s'interposer et différer le moment où l'on apprend enfin que Morel est venu apporter au héros des photos d'actrices collectionnées par son oncle, parmi lesquelles figure une photo du tableau de Miss Sacripant. Or, ce tableau ne vous dira peut-être rien, mais est le vecteur d'une autre reconnaissance dans le volume précédent sur laquelle je vais revenir, parce qu'elle est préalable à celle-ci, et donc remue chez le héros un ensemble de souvenirs, d'abord disjoints, de celles indépendantes d'une mosaïque qui viennent peu à peu s'agréger dans une représentation synthétique et complexe. Le héros accomplit ici un acte de reconnaissance par syllogisme, qui s'articule en plusieurs prémices. D'une part, à ce moment de l'intrigue, il a déjà appris que le portrait du personnage en travesti représente une ancienne hypostase d'Odette, devenue après son mariage l'élégante Madame Swann, qu'il a fréquentée en tant que mère de son amie Gilberte. D'autre part, la présence de cette photo dans la collection de son oncle amène le narrateur à la déduction qu'Adolphe connaissait Odette dès l'époque où elle tenait le rôle de Miss Sacripant, soit bien avant de se lier avec Swann. Mais ce n'est qu'au moment où Morel confirme que cette femme est la demi-mondaine qui déjeunait chez son oncle le dernier jour qu'il l'a vue, que la boucle est bouclée. Le syllogisme aboutit à une reconnaissance qui unit le point de départ de la série, la mystérieuse dame en rose, à un point provisoire d'arrivée, la femme de Swann, et fait coïncider deux facettes aussi éloignées qu'incompatibles d'Odette. Je pensais à Madame Swann et je me disais, avec étonnement, tant elles étaient séparées et différentes dans mon souvenir, que j'aurais désormais à l'identifier avec la dame en rose. Cette phrase contient, à mon avis, deux termes intéressants, d'où l'on peut dégager autant de traits essentiels propres à la sérialité sui generis du personnage proustien et au dispositif de la reconnaissance qui la sous-tend. Le verbe identifier et l'adverbe désormais. Le premier indique que l'acte de reconnaissance qui s'impose au narrateur revient d'abord à admettre la rupture de la relation dont a parlé Philippe Hamon, et je le cite, entre le nom du personnage, son signifiant, et la somme d'informations auxquelles il renvoie, son signifié. Fin de citation. Et ensuite à instaurer, si forcée qu'elle puisse sembler, une correspondance entre deux entités distinctes et apparemment inconciliables. L'éblouissante dame rose de l'enfance s'avère être la même personne que Madame Swann, la femme la plus élégante de Paris. Mais à l'instar d'un jeu de poupées russes, la dame rose et Madame Swann contiennent aussi Odette de Crécy, l'actrice au sexe indécidable portraiturée par Estire, la demi-mondaine pour laquelle Swann a souffert les affres de la jalousie et a gâché le meilleur de son existence. Identifier ou reconnaître signifie alors d'abord prendre conscience de la fragmentation qui caractérise les êtres, puis isoler dans leur spécificité et ramener à une unité irréductiblement plurielle trois hypostases de la même personne, trois faces disparates et néanmoins superposées d'une même médaille. L'adverbe de temps désormais fonctionne quant à lui comme l'indice d'une réorganisation conceptuelle, d'un réajustement dans la géographie affective et sociale du héros-narrateur. À partir de ce moment, le signifiant dame en rose ne coïncide plus seulement avec le signifié cocotte, ami de l'oncle Adolphe, créature merveilleuse, mais subsume et englobe les éléments d'une série. La maîtresse puis femme de Swann, Miss Sacripant, la mère de Gilberte, autant d'éléments discordants qu'il faut pourtant rallier sous une même identité. La surprise qui frappe le héros-narrateur découle donc d'un sentiment de dépaysement, car la reconnaissance a pour répercussion immédiate l'ébranlement du système des connaissances qui avait cours jusque-là pour le héros. Comme l'a écrit Alain Delattre dans son étude sur le personnage proustien, le héros fait ici l'expérience d'un double étonnement. Je le cite, « l'étonnement de ce qui est différent, l'étonnement de ce qui est le même et qui le reste malgré tout ». Il s'ensuit donc que la sérialisation à l'œuvre dans la recherche n'agit nullement comme un facteur de redondance et de lisibilité. Le personnage sérial de certaines traditions feuilletonesques, je pense à James Bond, à Fantoma, mais aussi ce qu'on a vu ce matin un peu, est stable, hors du temps et toujours reconnaissable, car inséré dans une dynamique de répétition globale agrémentée de minimes modifications. Au contraire, l'agencement sériel des images qui composent un même individu permet à Proust d'orchestrer une dialectique subtile d'identité et de variation. Déjouant tout effet de stéréotypie, la réapparition d'un personnage s'accompagne toujours d'un effet de choc, d'une stupeur qui se répercute aussi sur le lecteur, chez qui la reconnaissance d'une identité, pour ainsi dire biologique, commune à des figures qu'il a d'abord pu croire étrangères l'une à l'autre, entraîne la reconnaissance différée de la sérialité du personnage, oui, ainsi que du caractère dyschronique intermittent de sa représentation. De la sorte, dans un mouvement rétroactif, le lecteur revalue l'occurrence précédente en occurrence première et l'occurrence présente en occurrence seconde. J'ai cité là encore Daniel Aranda. Et commence à rassembler les pièces d'un puzzle dont les contours vont néanmoins rester flous. Alors, j'avais anticipé tout à l'heure que l'identification syllogistique de la dame en rose à Madame Swann, dans le côté de Guermantes, a pour préalable un acte d'emphase intermédiaire, qui survient de manière totalement imprévue dans un nombre de jeunes filles en fleurs, et qui concerne donc ce fameux tableau de Miss Sacripant. Le héros rend visite au peintre Estire à Balbec. Parmi les tableaux et les esquisses qui se trouvent dans l'atelier de l'artiste, son attention est captivée par le portrait d'une jeune actrice en travesti. Plein d'admiration, il demande à Estire d'où vient ce titre curieux de Miss Sacripant. Et c'est à ce moment-là que se produit le miracle d'une intuition spontanée, non motivée par des signes extérieurs tangibles, à laquelle fait suite la reconnaissance. Ce n'est pourtant pas Madame Swann avant son mariage, lance le héros, comme frappé d'une illumination, lui-même choqué par cette, je cite, brusque rencontre avec la vérité, brusque rencontre fortuite, pardon, avec la vérité, qui est somme toute assez rare, à laquelle fait suite ce que j'arrive à dire, appeler la phrase à apparition, proustienne, mais de dérivation flaubertienne, qui scelle la reconnaissance. C'était bien un portrait d'Odette de Crécy. Cette nouvelle facette de la personnalité d'Odette restitue au lecteur une incarnation révolue de la femme de Swann et ajoute une couche ultérieure à la construction d'une figure à la fois familière et nouvelle et qui s'avère proprement kaléidoscopique. La nuance des réitérations que véhicule le préfixe « re » dans le mot « reconnaissance » acquiert alors un sens spécial dans le système proustien des personnages. Reconnaître ne signifie pas simplement identifier une personne à partir des informations que l'on possède sur elle, mais connaître à nouveau, en s'appuyant sur de nouvelles bases, quelqu'un que l'on croyait connaître déjà, ou plus exactement, que l'on connaissait sous un autre aspect, parfois sous un autre nom. Partant, le personnage n'est pas à proprement parler un inconnu, mais n'est pas non plus la même personne que le héros avait rencontré à un moment donné de sa vie. L'Odette des Verdurin est et n'est pas en même temps la dame en rose, Miss Sacripant, Madame Swann et à la fin du roman encore, Madame de Forcheville. Nous touchons là au paradoxe intrinsèque du personnage sériel proustien que je mentionnais au début de ma communication. Ses apparitions successives enrichissent certes son portrait et sa densité psychologique, mais au lieu d'en épuiser les virtualités, elles s'accompagnent d'un sentiment d'incomplétude, au sens que Vincent Jouve donne dans son étude à ce terme, et de sous-détermination. On reste sur sa fin, pour ainsi dire, en raison même des perspectives nouvelles que les touches ajoutées tour à tour au portrait nous laissent entrevoir. Comment était la vie d'Odette quand elle jouait le rôle de Miss Sacripant? Qu'est-ce qui sépare, au-delà des différences de statut social, la dame en rose de Madame Swann? Le texte nous met donc dans la même impasse que Swann, taraudée par des questions sur le passé de sa maîtresse qui sont destinées à rester sans réponse, tout en stimulant notre créativité et en nous invitant à combler nous-mêmes les blancs. Cette recomposition lacunaire des images contradictoires et disjointes d'une même personne fait de celle-ci un être insaisissable et au fond inconnaissable, toujours nouveau et toujours fugitif. Je remarquerai pour finir que le clivage intervenant entre les incarnations successives d'Odette est souligné aussi à travers le stratagème formel du changement de nom propre. Stratagème qui d'ailleurs n'était pas étranger à Balzac, mais que Proust utilise de manière encore plus subtile. L'alternance des appellations que j'ai citées tout au long de ma communication est en effet le symptôme extérieur d'une diversité au sein de l'identité, ainsi que l'indice d'une évolution qui est certes intime et personnelle, mais qui se déroule dans la sphère sociale. Chaque nom marque en effet une position déterminée au sein de la trajectoire mondaine. L'échelon de la hiérarchie attend temporairement par le personnage, ainsi que l'arrêt momentané du kaléidoscope de la société sur telle ou telle de ses figures. Signifiant discontinu, renvoyant lui-même, insignifié et lui-même discontinu, pour le dire encore avec Philippe Hamon, le nom propre change en fonction de la permutation incessante qui anime et bouleverse le jeu social. Ça, c'est une formule de Barthes. Et promeut l'alternance au sein de l'autre au sein du même. Au lieu d'être un gage de stabilité et d'assurer l'identification, ainsi que la continuité de la référence au fil du récit, la chaîne onomastique est brisée à dessein par Proust, afin de dramatiser une conception de l'individu. Et là, je cite deux linguistes qui ont étudié le mécanisme du nom propre, d'Amourette et Puchon, comme étant décomposable en une suite d'individus différents, s'étant succédé dans le temps. En conclusion, j'aimerais citer donc cette phrase, une phrase de Chateaubriand qui résume bien, quoique sous un jour un peu négatif, le principe de sérialité qui gouverne non seulement la représentation proustienne des personnages, mais aussi la condition humaine dans sa globalité. L'homme n'a pas une seule et même vie, il en a plusieurs mises bout à bout. Loin de constituer une misère, comme le prétendait Chateaubriand, c'est bien dans ce mouvement perpétuel, dans ce devenir inépuisable que réside la vie et son essence profonde. Alors que, comme le montre la dernière apparition d'Odette dans Le Temps retrouvé, le figement des traits, l'absence de changement qui s'exprime dans cette scène finale, dans la conservation illusoire d'un semblant de jeunesse, constitue un signe avant-coureur de la mort, une préfiguration du rigor mortis. D'ailleurs, justement parce qu'elle n'avait pas changé, nous dit le narrateur, elle ne semblait guère vivre. Elle avait l'air d'une rose stérilisée. S'appuyant sur le dispositif de la reconnaissance qui contribue à la représentation fictionnelle de la plurivocité constitutive de chaque identité, la mise en série des personnages et leur retour périodique au sein de la recherche participent d'une exigence proprement réaliste de la part de Proust, dans la mesure où le romancier s'efforce de rester au plus près de ce qui s'est révélé à lui comme étant la réalité, la vérité ultime de l'homme. Un sujet fractionné, mouvant, traversé par le temps, étant constitué par une collection de moments éphémères qu'il faut aligner, faire tenir ensemble dans une série, d'où émerge moins la synthèse que la multiplicité, moins l'identité que la diversité. Je vous remercie.